Gabriel, il faudrait quand même qu'on revienne sur ce fameux Régis, quoi, enfin sur cet enfant terrible du cartésianisme, parce que quand on regarde un petit peu comment les choses se sont passées dans l'histoire de la réception de Descartes et puis même du vivant de Descartes, s'il y en a bien qui a fait des remous à l'époque à l'université d'Utrecht, au moment où on a commencé à diffuser, à enseigner le cartésianisme, c'est lui. Il s'est un peu mis tout le monde à dos, il a défendu des thèses provocantes, il a irrité Descartes. Et puis, quand on regarde la manière dont il est encore perçu aujourd'hui, c'est quand même plutôt comme un renégat, comme un traître. Et quand on réfléchit un petit peu aux raisons pour lesquelles il peut apparaître encore aujourd'hui comme tel, ben, on peut se demander si ce n'est pas déjà de la faute de Descartes lui-même, puisque quand il a écrit à Elisabeth, à Mersenne, etc., il est allé jusqu'à le décrire comme un plagiaire, quoi, comme quelqu'un qui lui avait volé sa conception du mouvement musculaire dans le Traité de l'Homme. Donc ça serait quand même intéressant qu'on revienne là-dessus, parce que moi j'aimerais bien savoir comment tu vois les choses.
Ce que je trouve assez étonnant au sujet du rapport Descartes-Régis, c'est le fait que l'ambivalence de leur rapport, l'amitié profonde qui se noue au départ, jusqu'à l'année 45 qui est le moment de la rupture, et la manière extrêmement méprisante, dédaigneuse avec laquelle Descartes va le traiter, comme tu disais, après 45, ça c'est quand même effectivement, il me semble, quelque chose qui est assez singulier dans l'histoire des relations que Descartes a pu entretenir avec des savants de son époque ou avec des correspondants.
Cela dit, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, quand on regarde comment les choses se sont passées, ne serait-ce que chronologiquement, en laissant même de côté la relation un peu affective ou la relation d'amitié entre les hommes, au départ, en fait, à Utrecht, quand ça commence, c'est-à-dire quand Régis est le premier finalement à diffuser le cartésianisme à l'université à partir du discours de la méthode et des essais scientifiques qui l'accompagnent, il s'oppose aux aristotéliciens, aux tenants des formes substantielles, et Descartes l'aide à répondre à ses adversaires. Donc ils ont vraiment un combat commun au départ. Ensuite, les choses se corsent, mais ce qu'on pourrait se demander, c'est si finalement on n'a pas à rechercher chez Régis quelque chose comme une forme de vérité sur le cartésianisme, d'une certaine façon.
Et oui, une forme de vérité sur le cartésianisme, et aussi cette idée assez intéressante qu'il y a dans le cas de Régis, que d'une certaine manière, le destin de la pensée de Descartes aurait échappé dès le vivant de Descartes à ce que Descartes aurait voulu en faire connaître à travers effectivement ce personnage de Régis qui défend des thèses, par exemple début des années 1640, la thèse extrêmement provocante que l'homme est un être par accident qui choque Descartes, qui dérange Descartes. Et donc, effectivement, à travers Régis, se joue une pensée de Descartes qui échappe déjà à Descartes. Alors, ce qui me paraît intéressant, tu parlais tout à l'heure du schéma du renégat que Descartes a lui-même contribué à forger après la brouille, c'est-à-dire cet homme-là étant piètre médecin. Non, c'est ça, finalement, qu'il y a un piètre médecin qui ne comprend rien à mes métaphysiques, qui n'a pas l'esprit assez subtil pour comprendre mon dualisme. Type d'argument que Descartes emploie contre d'autres, Gassendi par exemple, c'est que ce schéma du renégat, il n'est pas évident. Quoi. En fait, c'est un schéma qui s'impose si on se place du point de vue de Descartes, parce qu'on pourrait tout aussi bien se placer du point de vue de Régis, se dire qu'après tout, quand Régis aborde Descartes, il aborde l'auteur, comme tu disais, du discours de la méthode et des essais. Il aborde une relation avec l'auteur du discours de la méthode, c'est-à-dire avec celui qui représente la philosophie nouvelle, le mécanisme. Et peut-être, prendre le point de vue de Régis, c'est considérer qu'il y a eu évolution de la pensée de Descartes lui-même, qui s'est mis à publier sa métaphysique. Et Descartes le dira en 45 à Régis, il y a des gens qui pensent qu'en publiant votre métaphysique, vous avez discrédité votre philosophie. Alors ça sera le mot trop. Descartes n'acceptera pas du tout cette critique. Mais effectivement, là, il y a quelque chose de très intéressant, qui est que Régis serait le premier ou un des premiers à avoir proposé une interprétation de l'histoire de la pensée de Descartes, qui consiste à dire que finalement, les méditations métaphysiques seraient une régression par rapport à la science mécaniste, la physique et la physiologie mécaniste que Descartes avait élaborée plus tôt.
Ouais. Oui, et puis quand on voit la manière dont Régis se présente lui-même finalement. Évidemment, au fur et à mesure qu'il a retouché ses textes, y compris après la mort de Descartes, il s'est publiquement distingué d'un certain cartésianisme et du cartésianisme des méditations, mais il a toujours continué à se revendiquer comme étant cartésien ou comme étant la cohérence du cartésianisme. Le schéma, c'était lequel, en fait? C'était, eh bien, on reprend le combat commun initial contre les formes substantielles et on applique le rasoir à l'âme humaine elle-même. On finit le travail, quoi. On finit le boulot.
On finit le travail.
Et d'une certaine façon, c'est ce que Descartes s'est empêché de faire pour des raisons extérieures à sa philosophie, c'est-à-dire en prenant en considération essentiellement les enjeux théologiques, etc. Et effectivement, on peut de ce point de vue-là, par exemple, se référer à l'épître dédicatoire en méditation métaphysique. Et on pourrait évidemment se demander s'il n'y a pas chez Régis quelque chose comme un cartésianisme cohérent ou d'une cohérence poussée à l'extrême qui évidemment se distinguerait de ce qu'on reçoit aujourd'hui comme étant le cartésianisme dans sa globalité. Mais en tout cas, Régis, lui, non seulement s'est toujours revendiqué comme tel, mais a aussi été reçu comme tel par un certain nombre de gens de son vivant. Et encore ensuite, quand tu regardes comment les choses se sont passées dans l'histoire de la réception, bien sûr, certains continuent à le présenter comme un renégat, Klauberg, etc. Mais d'autres, je pense par exemple à la filiation qu'établit Marx dans la Sainte Famille, d'autres vont, à partir de Régis, en poursuivant jusqu'à la maîtrise, en allant jusqu'à Cabanis, problématiser quelque chose comme un cartésianisme matérialiste médical. Donc il y a là à la fois une filiation et une répudiation paradoxale, en fait.
Quand on évalue l'impact de Régis dans l'histoire du cartésianisme, ce que tu disais, je pense qu'il faut aussi peut-être pointer le fait que dans l'esprit de beaucoup de gens, à chaque fois que Régis publie quelque chose, c'est du cartésianisme. De fait, par exemple, dans l'esprit de leurs adversaires théologiens dont tu parlais à l'Université d'Utrecht, comme Vossius, bon, l'horrible Vossius, à chaque fois que Régis publie des thèses provocantes, que Descartes n'est pas toujours prêt à soutenir, par exemple, l'homme est un être par accident, ou plus tard, le fait qu'il envisage la possibilité que l'âme soit un mode du corps, les gens voient les écrits de Régis comme l'incarnation de ce qu'ils appellent la nouvelle philosophie, qui est la science et la philosophie cartésienne. Donc effectivement, leurs noms sont liés à tel point dans la tête des gens qu'il a un impact énorme dès les années 1640 sur la manière dont s'est construit le cartésianisme. Ce qui peut permettre de comprendre, par exemple, tu parlais des matérialistes du XVIIIe siècle comme Lemaître, on peut aussi envisager le cas de Spinoza, que quelqu'un comme Spinoza au XVIIe siècle en Hollande publie des principes de la philosophie de Descartes, ne peut guère se comprendre si on repart de ce cartésianisme particulier, peut-être plus radical que n'était le cartésianisme de Descartes qu'incarnait Régis dans les Pays-Bas du XVIIe siècle.
Oui, puis c'est vrai que quand on regarde comment les choses se passent dans la querelle d'Utrecht, par exemple, ceux qui attaquent Descartes le font souvent en citant Régis. Parce que finalement, quels sont les textes publics à ce moment-là? Le discours et les essais, sinon les dissertations de physiologie de Régis, etc. Donc une espèce d'intrication permanente qui pousse Descartes du coup à s'en distinguer publiquement dans la lettre préface au principe. Mais dans le contexte, en tout cas, les choses sont loin d'être aussi claires. Et ce que ça m'inspire finalement, c'est que la prise en considération d'une personnalité comme Régis peut nous amener à repenser la place d'une forme d'empirisme dans l'édification même de la philosophie de Descartes. Alors, soit au titre de moments constitutifs ou de partie prenante de la philosophie, soit au titre d'interlocuteurs obligés par rapport auxquels il faut toujours se positionner. Et c'est en envisageant des dialogues parfois implicites avec des figures comme Régis, mais aussi Gassendi, Hobbes, etc., qu'on peut comprendre, par exemple, certaines reformulations des Principia dans les Principes. Et donc, quelle que soit finalement l'option qu'on adopte, Régis, cartésianisme cohérent, ou Régis, révélateur simplement d'une tendance du cartésianisme qui fructifiera par ailleurs, mais qui ne suffit pas à rendre raison de sa richesse. Le cartésianisme s'est élaboré en dialogue constant avec ce type de réaction, et que l'histoire de la réception du cartésianisme, c'est aussi, et peut-être même avant tout, celle de sa réception dans ces milieux empiristes.
Peut-être ce qu'il faut pointer ici, c'est le fait que Régis s'est détaché, a pris ses distances vis-à-vis de Descartes sur une thèse tout à fait importante qui est les idées innées. Et effectivement, là, Régis ouvre une voie en critiquant cette thèse, en essayant de reconstruire un cartésianisme qui ferait l'impasse sur les idées innées, une voie qui peut avoir influencé, c'est la lecture qu'en propose Marx, dont tu parlais dans la Sainte Famille, qui peut avoir influencé des traditions qu'on a l'habitude d'opposer radicalement aux cartésianistes comme Locke ou...
Alors, tu sais, c'est très intéressant parce que y a un texte dont on ne parle jamais et qui pourtant fait explicitement ce lien, c'est un texte de Destut Tracy. Et dans ce texte qui s'intitule « Lettres de Descartes », dans lesquelles il revendique l'intérêt de prendre en considération la correspondance et pas seulement les méditations, etc., comme le font un certain nombre d'interprétations un peu trop spiritualistes de Descartes, eh bien, lorsque Destut Tracy revendique cet intérêt de la correspondance, il pointe du doigt l'intérêt de la lecture de Régius et il établit une filiation via Régius entre Descartes et Locke, par exemple. Et donc, c'est intéressant de voir que ce fil conducteur des idées innées, il revient sous la plume d'un idéologue pour établir dans l'histoire de la philosophie, au moment où on va élaborer en France les premières histoires de la philosophie, des filiations qu'aujourd'hui, après, disons, toute la vague spiritualiste, cousinienne, etc., on pourra, certains s'accorderont à les juger en tout cas comme improbables, quoi. Et puis ce que je trouve passionnant, c'est le champ de recherche extraordinaire que ça nous ouvre. Alors certains ont largement défriché le terrain, l'équipe d'Utrecht notamment qui a travaillé sur ces questions, mais on voit bien à quel point le travail sur des textes encore pas traduits, par exemple de Régius, en quoi ce travail finalement est susceptible de renouveler notre lecture du cartésianisme et la manière dont on envisage sa place dans l'histoire des idées.